Mon Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime et je te prie de bénir mes amis, mes ennemis. Je te prie de bénir les auditeurs. Je te demande de mettre ton amour en eux, de mettre ta vérité en eux. Conduis-moi dans ta vérité et dans ton amour aussi, Seigneur. Nous qui sommes pauvres, nous humains, nous cherchons les trésors qui sont dans ton âme, dans ton cœur. Personne. C'est en toi que nous pouvons recevoir consolation, force, richesse, c'est-à-dire sainteté, gloire, Seigneur, accomplissement de notre être. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons trouver plénitude. Aussi, Seigneur, je voudrais te louer, Seigneur, aujourd'hui, et que tu bénisses cet enseignement et l'écoute de cet enseignement. Alléluia. Mes chers amis, sans doute que je serai coupé souvent, parce que la connexion Facebook est déficiente, et donc ça ne sera pas toujours facile. Lundi prochain, ça sera chez un nouveau, tout près de Angers, que je serai, si la... Peut-être que ça sera la même chose, un peu partout où je passe, la connexion pour Facebook n'est pas très bonne, pour la Wi-Fi. Mais prenez patience, chers amis, je serai rentré le vendredi 24, je serai à la maison, je l'espère, avec l'aide de Dieu, pour faire les messages chez nous. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Menou en Allier. Je continue le message de l'autre jour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Annette, bonjour Antoinette, bonjour Stevens. Les apôtres n'ont pas cherché les paroles et les faits de Jésus. J'en suis certain dans les évangiles. Les apôtres étaient honnêtes. Ils ont montré leur peur, ils ont montré leur incrédulité et ils ont montré leur faiblesse. Ce texte est d'une très grande honnêteté. Et on voit que ils ne se sont pas toujours arrangés dans la connivence, la complicité pour avoir un discours parfaitement le même. Sur les faits fondamentaux, ils sont d'accord. Jésus est venu pour nos péchés sur la terre selon les Écritures. Jésus est mort sur la croix selon les prophéties annoncées par l'Ancien Testament. Jésus est ressuscité selon les promesses de l'Ancien Testament. Il est ressuscité et vivant. Et il donne le salut par son sacrifice à ceux qui croient en lui. Il donne le Saint-Esprit. Et il donne aujourd'hui l'onction du Saint-Esprit à travers la parole. La parole est la nourriture de notre âme. Et il donne aujourd'hui, Jésus, paix et sainteté et victoire sur le péché à tous ceux qui aiment Jésus, tous ceux qui se consacrent. Les apôtres n'ont jamais caché leur faiblesse. Et même Pierre, dans l'évangile de Marc, n'a même pas caché les réprimandes que Jésus lui a faites, arrière Satan, sur les pensées des hommes. Il n'a même pas caché sa faiblesse grave, sa trahison, d'avoir trahi Jésus, son ami, son maître, son berger, trois fois avant que le coq ne chante. Il a caché, dans l'évangile de Jean, qu'il n'allait pas au mont de Tabor avec 500 autres, il allait à la pêche dans la mer de Galilée avec 6 autres. Il a fallu que Jésus vienne les chercher. Puis ensuite, ils ont rejoint les 500 et tous les autres apôtres sur le mont Tabor. Et ils sont une communauté de témoins. Ce ne sont pas des intellectuels, ce sont tous des manuels, tous des professionnels d'un métier, d'une corporation, soit de la pêche, soit percepteur d'impôts, soit menuisier, charpentier. Ce sont des gens du peuple. Ils ont leur carrière. Corps est faible selon les moments et ils ont eu parfois des attitudes que Jésus n'a pas reçues comme bonnes et il les a réprimandées. Jusqu'à quand vous supporterai-je, vous, race aux courettes, au cœur incirconcis? Il a dit cela à eux aussi, tout autant que aux... C'est un quorum de témoins de plus de 500 personnes dans 1 Corinthiens 15, verset 6, qui a vu Jésus sur le mont Tabor. C'est un quorum, c'est-à-dire une communauté qui a compris que Jésus les aimait et resterait avec eux pour l'éternité serait leur source de vie éternelle. Et ce quorum a été persécuté, dispersé, et ils ont tenu bon malgré toutes les persécutions. Et ils avaient un immense amour dans leur vie, un immense amour dans des écrits. Il y a des écrivains, je vous lirai ça plus tard, la fois prochaine, lundi, des écrivains incroyants ont témoigné du comportement des chrétiens malgré toutes les persécutions, malgré toute la haine qu'on leur accordait. Maintenant, nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 18. Nous portons ce trésor, donc Jésus-Christ, dans des vases de terre, l'image de quelqu'un d'imparfait. L'homme, l'être humain, qui est fait d'argile et créé par Dieu pour recevoir Jésus. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance du Saint-Esprit, de l'Évangile, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, pourtant toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Chers amis, je continue. Dans 2 Corinthiens 4, verset 12, « Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant à travers vos vies, vos conversions, votre vie chrétienne, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Nous voyons que Paul qui était un ennemi de la foi, un ennemi des chrétiens, qui les a se met au service de Jésus-Christ. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quoi qu'il lui en coûtera à travers toutes les persécutions, il sera fidèle dans le service de Jésus. » Et donc, Paul dit ceci, « Tout cela arrive les autres qui acceptent, les Corinthiens qui acceptent l'Évangile grâce à leur témoignage, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Pour lui, c'est la multiplication des enfants de Dieu à travers la terre, c'est l'accomplissement de la... C'est la dispersion des graines, comme les graines de coquelicot ou du pissenlit, à travers les prairies, à travers toute la nature. Une montagne élevée avec nos amis français de Saint-Menoux. Et il y avait là, parmi les genêts, un pin qui poussait tout seul, là. Comment est-il venu? Par le vent. Eh bien, l'Esprit Saint, dont l'image est le vent, l'Esprit Saint a poussé les chrétiens, les 500 et plus. L'Esprit Saint a poussé tous ces témoins, tous ces hommes humbles et ces femmes humbles, à témoigner de Jésus vivant, qui est l'homme, par définition, qui est magnifiquement saint, qui les a aimés, qui est pour eux, qui les aimera toujours, qui leur ouvrira pour éternellement la porte du ciel, qui les accueillera dans sa gloire. Donc, ils ont un très grand amour pour Jésus. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur, donc notre condition humaine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, notre vie intérieure, spirituelle avec Christ. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Tout comme Abraham, n'est-ce pas, dans le chapitre 11, Abraham regardait, il était tourné vers l'invisible, il l'attendait et il se dirigeait vers la cité céleste, la cité de Dieu. Les chrétiens ont cette conviction dès le premier siècle que tout est dans les mains de Jésus-Christ, le ressuscité. Jésus-Christ est le résisté, il est le puissant. Et voici ce que dit Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Si donc, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Bien sûr, c'est la gloire de Christ, évidemment, du Fils de Dieu et du Père des cieux qui l'a envoyé. Donc, ils sont au service. Et ils n'ont pas recherché l'argent, ni la puissance. Ils n'ont pas recherché l'orgueil, la vanité. Ils voulaient communiquer le trésor qui avait été donné aux hommes et dont ils avaient reçu la grâce de le connaître, de voir Jésus ressuscité. Les premiers témoins ont été fiables. Les premiers témoins ont été admirables. Dans le premier Corinthiens, chapitre 11, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Il est clair que chaque fois la foi va se prolonger dans le monde par le témoignage d'un chrétien vraiment né de nouveau, fidèle à Christ, au service de Christ. C'est la dynamique même de l'Évangile encore aujourd'hui qui se répand dans le monde. Plus qu'on ne pense. Donc, chers amis, nous, Européens, qui sommes des chrétiens bien souvent fatigués, accaparés par d'autres choses, mettons-nous au service, soyons au service de notre Seigneur, comme tous ceux qui, à cette époque-là, ont été persécutés, et dans beaucoup de pays actuellement sont persécutés, et s'engagent pour le Seigneur. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 9, au verset 12, il est dit ceci. « Nous n'avons pas usé du droit de jouir des biens des autres, hein, puisque nous servons Dieu. Nous n'avons pas utilisé ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Eh bien, de même, aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et vivre de l'évangile, bien sûr, on va partir de l'argent. Je demande des sous parce que je suis... Vivre de l'évangile, c'est vivre de Christ ressuscité. Et s'il arrive, c'est mon cas actuellement, de vivre grâce à des dons de chrétiens qui sont versés à la société à mes vies, il est clair qu'une grosse partie de ma vie, j'ai travaillé de mes mains. Et que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, servent le Christ tout en travaillant, en œuvrant dans les charges de famille et en servant le Seigneur fidèlement. Donc il y a un engagement, une mise au service de Dieu, et il est clair que là, l'homme, l'âme de la femme, de l'homme qui aime Dieu, qui est saisi par l'amour de Christ, s'engage, se donne, fait le don de soi à Jésus. 1 Corinthiens 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. C'est le mot doulos, ça veut dire esclave. Des dispensateurs des mystères de Dieu. Et mystères de Dieu, c'est les paroles de Dieu. Et... Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun se trouvait fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Donc, clairement, il y avait un courage formidable de serviteur. Serviteur courageux et humble, les amis. Humble. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec un langage de grand monsieur, de supériorité ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Jésus-Christ. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et de ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur un discours persuasif de sagesse. Démonstration de l'Esprit Saint et de sa puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, ni celle des autres, ni la mienne, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Nous voyons l'humilité, la grande. Alors, le serviteur va plus loin que ça. Ce brave serviteur de Dieu dit, Je ne fais pas des scores, je ne baptise pas pour avoir X, 50 ou 100 ou 200 baptisés cette année-ci, ou 25 par jour, ou 5 000. Non, je ne suis pas là pour le service de ce rite, qui est un acte d'obéissance. Je suis au service de l'évangile, de l'annonce de l'évangile. Je suis serviteur de l'annonce de la résurrection. Je suis témoin du ressuscité. C'est ça la première chose. Et c'est pour ça qu'il dit ceci. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, c'est la première aux Corinthiens, chapitre 1, versets 14 et 15, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Dans une communauté de plusieurs centaines de personnes, il n'y a baptisé que cinq. Nous, baptistes aujourd'hui, si nous descendons d'un tel apôtre, de tels autres serviteurs comme Pierre, Jacques et Jean, notre efficacité ne se mesure pas au nombre de baptêmes que nous avons faits. Simplement, nous sommes serviteurs de la parole, de l'annonce de Jésus-Christ ressuscité, crucifié pour nos péchés. Le baptême n'est pas la première œuvre, le premier travail d'une église, même appelée baptiste. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer les sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La prédication de la folie, de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, si la prédication, annoncer Jésus, annoncer sa croix est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire qui ne croient pas, cela veut dire, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, cela veut dire que je suis pris pour un fou, pour un dingue, quand je parle de Jésus de Nazareth. Un juif mort sur une croix à Jérusalem est ressuscité et vivant aujourd'hui, sauveur du monde. Je suis pris pour un dingue, un fou. Et donc, c'est pas grave. Parce que nous sommes là pour que la puissance du Seigneur, non pas la nôtre, descende dans pour croire en Jésus ressuscité, crucifié. Et donc, Dieu a dit au verset 19, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Il était un homme cultivé, super cultivé, et c'était nul. C'était nul. C'était nul. Au point que, si vous voulez, si nous retournons dans Jean chapitre 13, nous comprenons très bien ce que Jésus a fait comprendre à ses disciples. Lorsque Jésus lave les pieds, Jean chapitre 13, verset 5. Il versa de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds des disciples et les essuyait avec le linge dont il était saint. Plus loin, il dit simplement, vous devez aussi, au verset 14, vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, Seigneur. Or, le Seigneur, le petit charpentier de Nazareth, rejeté, méprisé, crucifié, oui, le chrétien n'est pas plus haut. Et finalement, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Donc, clairement, l'évangile a commencé dans l'humilité, dans la petitesse. Et toujours Jésus a enseigné que celui qui s'abaisse sera élevé, c'est-à-dire dans la gloire de Christ dans son règne. Celui qui s'élève sera abaissé. Le principe de la chrétienté, du christianisme naissant, c'est l'humilité et l'amour de Christ et le service humble de la parole, de l'annonce de la résurrection. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons cette tâche si nous voulons participer réellement au corps de Christ. Il est clair que je vais aller plus loin. Dans 1 Corinthiens 4, verset 1, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs d'amitié. Les chrétiens, à cause de la sainteté de Jésus et de son appel à la sainteté, soyez saints comme mon Père céleste est saint, à la fin du chapitre 5 de Matthieu, et bien d'autres enseignements de Jésus, les chrétiens avaient une position tranchée par rapport à la vie décadente des humains. Et je lis dans 1 Corinthiens 5, verset 9, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, donc tous les déréglés, ou avec les cupides, ceux qui aiment l'argent, les ravisseurs ou les plate. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, fuir les hommes. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, chrétien, est débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont dehors, donc, c'est-à-dire qui ne sont pas sauvés, ils ne sont pas en Christ, Dieu les juge. Ôtez simplement le méchant du milieu de vous. Donc ne laissez pas l'Église se corrompre. Dans le 1 Corinthiens 6, au verset 10, 9, au milieu du verset 9, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, adultères, efféminés, homosexuels, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, vous. Mais vous êtes lavé. Vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié, c'est-à-dire sauvé. Vous avez été justifié, c'est-à-dire déclaré juste, acquitté de votre accusation devant le trône de gloire de Dieu. Déclaré innocent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit. Que veut dire donc Paul à travers ces paroles de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11? C'est que le pécheur est un misérable qui se fourvoie dans le péché, qui trempe dans des choses ténébreuses où le Satan le dirige et le mène en enfer, et qui corrompt le monde. Le pécheur corrompt son entourage. Mais ce qu'il a, il peut être, par grâce, lavé, complètement lavé, toute sa souillure, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas de gloire humaine à retirer de cela. Il y a une humilité profonde, une reconnaissance, un cœur simple et honnête devant Dieu, devant la grâce qui nous a été faite. Et cette grâce qui nous a été faite est bien sûr une source de louange. Cette source de louange en nous n'est pas pour nous autoproclamer saints et nous autoproclamer super croyants. Non, nous sommes toujours au pied du trône de grâce. Nous ne sommes pas déjà installés sur le trône, dans le ciel ou dans le royaume de Christ. Non, nous sommes au pied et nous sommes d'humbles serviteurs. Et donc, dans Éphésiens chapitre 1, voici. En lui, donc en Christ, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc l'appel à la sainteté est formidable et c'est un don, la sainteté. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu, prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc notre vie est là pour célébrer la gloire de la grâce, célébrer le cadeau d'être sauvé, le cadeau d'être devenu enfant de Dieu, et du ciel, héritier du ciel. Au verset 12, « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Voilà. Voilà à quoi sert le croyant. Le croyant n'est pas croyant pour lui-même. Le croyant est un adorateur, un intercesseur. Il est un adorateur, il célèbre le cadeau, le bienfait, purement gratuit, de son salut, du salut accordé aux autres. Il aime tellement Dieu, il est tellement reconnaissant qu'il porte dans son cœur ce désir de le communiquer aux autres. Quand il en parle aux autres, ce n'est pas lui qui va donner le salut, mais c'est Dieu, à travers son témoignage de sa vie, de ses paroles et de l'Écriture, qui va sauver les autres. Le croyant est un serviteur de la vie intérieure et de la parole écrite dans l'Écriture, et les deux doivent être conformes, vie intérieure, vie extérieure et Écriture. C'est une richesse formidable, mes amis. C'est une richesse formidable pour nous. Nous ne devons pas nous endormir. Et ça arrive très vite. C'est pour ça que Paul dit, avec beaucoup d'amour, dans Éphésiens, 5:15, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Inspectez-vous vous-même, faites le tour de votre vie, analysez-vous. Vous avez un libre examen à faire, non comme des insensés, comme des orgueilleux, mais comme des sages, et donc obéissant à Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc ne perdez pas une journée, ne perdez pas une heure, qu'elle appartienne à la gloire de Christ. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Quel beau message! Il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de finance, il n'y avait pas d'orgueil dans l'Évangile. Et il n'y en a pas encore dans le vrai Évangile. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis le début du christianisme, n'est-ce pas? Il s'est passé beaucoup de choses pour dévier la sainteté et la beauté de l'Évangile. Tout de suite, les apôtres se sont rendus compte que des gens prenant la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 16, et ça c'est pour nous aussi, et attention aux prédicateurs, attention ceux qui veulent avoir une fonction spirituelle envers le troupeau du Seigneur, ils sont jugés sévèrement. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté dans nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça c'est au baptême de Jésus et c'est lors de la transfiguration, Matthieu 17, 1. Et nous avons entendu cette voix venant du Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, le mont de la transfiguration, le mont Hermon. Et ensuite, plus tard, à la fin du ministère de Jésus sur la terre, sur le mont Tabor. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit jusqu'au martyr, jusqu'à perdre leur vie, être persécutés. Et donc, chers amis, comment être animé, habité de la vraie foi chrétienne? Eh bien, elle est décrite dans le deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie en Christ, en Dieu, et à la piété, la relation de foi, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, il s'agit de Jésus, il nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre sainteté. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Participants de la vie divine, en fuyant la corruption dans ce monde. C'est le même message. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Une vocation, c'est l'appel de Dieu et ma réponse. Et votre élection, ça c'était la décision de Dieu de m'appeler. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Affermir sa vocation et son élection. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Largement, c'est-à-dire, Dieu est large, il est riche en bonté, en amour. Il vous attend, les bras ouverts. Soyez donc fidèles, les amis. Soyez donc saints, soyez donc reconnaissants à Jésus. Tous ceux qui ont aimé vraiment le Seigneur Jésus, et encore aujourd'hui, ne désirent pas fausser l'image de Christ et la parole de Christ. Je vous mets en garde, chers amis. Il y a des courants très puissants dans le christianisme qui disent, par exemple, qu'il faut avoir le don des langues pour être sauvé, qu'il faut donner la dîme au pasteur pour être sauvé. C'est faux. Jésus-Christ n'a jamais enseigné cela. Ni Paul, ni personne. La dîme servait à servir les prêtres du temple. Ils étaient nombreux, 14 000 prêtres, 17 000 lévites. Femmes et enfants, ça faisait 165 000 personnes. Donc il fallait nourrir tous ceux qui faisaient le service sacré d'adoration et d'intercession. C'est fini. Nous avons un grand prêtre dans le ciel, un grand sacrificateur. Il n'y a pas besoin de redonner de la dîme à des pasteurs. Il n'y a pas à enrichir un pasteur. Un pasteur qui a trop d'argent oubliera le Seigneur et deviendra fou, orgueilleux, prétentieux et va tromper les gens. Toutes les églises où il y a eu trop d'argent, et encore aujourd'hui, s'égarent. Regardez l'église de Philadelphie, chapitre 3, la petite église de Philadelphie, sans puissance. Ça veut dire sans politique, sans argent, sans rien, sans moyens, comme au début des apôtres. Il est important de savoir qu'aussi le don des langues n'est pas donné à tous les chrétiens. Et c'est converti qu'on a reçu le Saint-Esprit. Paul le dit lui-même, que celui qui parle en langue parle pour lui-même, chez lui. Il ne vient pas au culte. Ou alors, s'il parle en langue au culte, il faut que quelqu'un interprète et il ne parle pas tous en même temps. Et c'est trois ou quatre dans une assemblée de... Le vrai don des langues est rare. J'ai assisté dans une communauté de 600 personnes. Trois personnes. Et chaque fois, c'était articulé. C'était pas chalabalabala. C'était articulé. Et quelqu'un d'autre s'est levé et a interprété. C'est un texte biblique. Et donc, c'était respectueux de ce que Paul avait demandé, que si quelqu'un parle en langue, il faut que quelqu'un puisse interpréter ou alors qu'il se taise. Et pas tous en même temps, car c'est un Dieu d'ordre et de paix, pas de désordre. Donc, il y a des tendances actuelles à faire des excès pour croire. Il faut absolument rester humble et fidèle à la parole de Dieu. Humble. Le sacrifice de Christ et la foi dans son sacrifice et dans sa résurrection sont l'essentiel de la Bible. Et c'est en cela que nous louons le Seigneur ensemble. Paul l'a dit aux Corinthiens. Comment pouvons-nous dire Amen et approuver la prière d'un frère, d'une sœur, si tout le monde parle et prie en même temps? C'est dans l'Épître aux Corinthiens. Il faut de l'ordre, il faut de la paix, et sans aucun excès, ni débordement émotionnel. Car dans une assemblée où il y a ce débordement, il peut y avoir, des sorciers, il peut y avoir des ennemis de Dieu qui sont en train de jeter des sorts, qui sont en train de prier Satan. Si tout le monde prie en même temps et fait le bazar, ce n'est plus, pas forcément une église bien dirigée. C'est une église qui va tôt ou tard s'égarer dans de graves fautes. Je suis tombé un jour dans une église en France où la présidence du culte était faite par une femme. Elle était très intelligente. Elle connaissait relativement bien sa Bible, je ne veux pas dire profondément, mais ce qu'il y a suffisamment que pour en montrer à tout le monde et diriger les choses. Elle prenait tous les noms de Dieu, El Shaddai, etc., El Shammah, Elohim, etc. Et puis elle finit par dire, mais vous savez, encore aujourd'hui, peut-être qu'il y aura encore d'autres noms qui nous seront révélés. Cela montre bien de l'audace. La révélation s'est terminée avec le dernier apôtre, l'apôtre Jean. La révélation est dans la Bible. Gardons les noms de Dieu qui sont dans la révélation sacrée des Saintes Écritures. Quand quelqu'un puisse dire ça, alors M. Rutherford a le droit de dire « Nous sommes les adorateurs de Jéhovah » ou « Adam Smith ». Tout le monde peut proclamer à un moment donné une vision, quelque chose qui est venu par l'Esprit. Et si les autres le croient, l'Église va s'égarer. L'Esprit Saint a limité toute une série de révélations essentielles à la vie de l'Église jusqu'à la fin du Collège apostolique. Nous en avons assez. C'est un immense trésor qui a été fixé par Amurutori au IIIe siècle par des centaines et centaines de responsables d'Église afin qu'on ne s'égare pas dans des choses apocryphes, c'est-à-dire à côté de l'Écriture, et qui semblait aussi Paul dit ceci dans Galates, chapitre 1, verset 13. Galates, chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, donc pas de lui-même, ni des autres. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, de la nation, animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, etc. Il témoigne que Jésus a été révélé par Dieu dans son âme, dans son esprit. Donc c'est un don de Dieu, la foi, évidemment. C'est pour cela qu'il dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, la foi est un don de Dieu qui glorifie, c'est un cadeau gratuit. Évidemment, dans tout son témoignage, il dit au verset 20, « Ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. » Il s'engage à ne point mentir. Et il y a quand même des gens très audacieux aujourd'hui qui inventent n'importe quoi dans les églises. Les apôtres ont eu des faiblesses, mais ils ont été humiliés dans leurs faiblesses. Les apôtres ont été brisés dans leurs faiblesses. Ils ont été persécutés, bafoués. Ils ont été rejetés et ils se sont accrochés à Jésus-Christ, à la personne même de Jésus-Christ, qu'ils connaissaient bien. Et ils ont témoigné de Jésus-Christ et rien d'autre. Nous ne devons pas adopter des nouveaux courants bibliques, théologiques, qui font de Jésus-Christ un autre Jésus-Christ. Nous ne devons pas accepter un autre évangile que celui qui a été donné par les apôtres. J'insiste parce que je sais parmi vous qu'il y en a qui se tournent vers des courants plus modernes, à succès. Mais faites attention à vous. Prenons Matthieu, chapitre 17, verset 17. Matthieu 17, verset 17. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Donc, Jésus a été extrêmement dur avec ses disciples. Est-ce que, si j'ai une responsabilité pastorale ou d'évangéliste, j'accepte la sévérité de Christ sur moi? Est-ce que j'accepte ou je suis complaisant avec moi? Est-ce que j'accepte la rigueur de Christ? Jusqu'à quand vous supporterai-je, race incrédule et perverse? Il faut faire attention à soi-même. On a vite fait de changer les paroles de Dieu. On a vite fait d'utiliser les chrétiens pour des fins personnelles. Croyez-vous que Jésus a été contre l'Empire romain, alors qu'il sait que cet empire était rempli de péchés? Croyez-vous qu'il a été contre les hommes politiques? Non. Pourquoi? Parce que son temps d'établir son royaume n'était pas encore fixé. Il a supporté la dureté, la difficulté des conditions humaines, des conditions politiques, géopolitique, et vous aussi, dans notre monde d'aujourd'hui, il est dur d'accepter les injustices, il est dur d'accepter les mensonges des dirigeants, mais pourtant Jésus l'a fait aussi. Dans Matthieu 17, verset 24, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes d'impôt s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes ?»« Oui, dit-il. » Quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que ton sang Qu'est ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou des impôts? Des esclaves, n'est-ce pas? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, donc pour qu'ils puissent arriver un jour à la foi, tout méchants qu'ils sont et injustes, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra. ta terre. Prends-le dans le leur pour moi et pour toi. Nous voyons ici qu'il y a un apprentissage de la non-violence, un apprentissage de témoignage pour gagner les âmes au paradis, les amener au ciel. Jésus pouvait contredire les puissances humaines, les politiques de son époque. Il en avait toute la capacité. Il ne l'a pas désiré, il ne l'a pas voulu. Alors, Jésus, par son attitude et son engagement, et la pureté de son engagement, de sa parole, a bien sûr eu peu d'auditeurs. Beaucoup ont tourné alentour de lui, comme les mouches tournent alentour d'un cadavre. Ils n'attendaient qu'une chose, c'est qu'ils se taisent, parce que ça ne leur plaisait pas, quelque part. Ils auraient voulu un rédempteur qui les les Romains. Comme aujourd'hui, on voudrait qu'il y ait quelqu'un qui intervienne tout de suite pour chasser la puissance des multinationales, des grands injustes qui dirigent le monde, des grandes iniquités de ce monde qui sont dues à des poignées d'hommes et de femmes. Et non, Jésus ne nous demande pas, il les brise. Jésus va jusqu'à dire qu'il va être frappé et tué. Matthieu 26, 31. Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu es pour nous tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te dis, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Il est clair que, et orgueilleux, devant les épreuves qui vont arriver dans ce monde, avant l'établissement du règne de Christ, qui n'est pas loin, il ne faut pas être présomptueux. Nous sommes des êtres faibles et nous avons besoin du Seigneur. Jésus le dit dans Jean chapitre 16. Jésus dit ceci, « Vous aurez des tribulations, courage, j'ai vaincu le monde. » Le fait que Jésus soit vivant, éternellement, ressuscité, nous suffit. Confions-nous dans Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, ressuscité. Et nous allons peut-être souffrir durant quelques années avant que Christ revienne enlever son Église. Mais cette épreuve sera purification pour nous. Déjà, il y a des frères dans certains pays qui souffrent énormément. Évidemment. Et Seigneur, nous savons que nous devons être conformes, Seigneur Jésus, nous savons conformes à ta mort, autant qu'à ta résurrection. C'est notre chemin. Si nous croyons en toi, Seigneur Jésus, nous portons ta croix et nous te suivons. Nous te donnons notre vie afin de la conserver éternellement. Si nous voulons la garder pour nous-mêmes, nous allons la perdre. Nous devons persévérer, oui, Seigneur. Viens à notre secours, donne-nous des forces, sois avec nous, Seigneur. Par la foi, nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es avec nous, que tu es vivant au siècle des siècles, que tu es le verset 10, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain prêtre, lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Nous voyons. Pierre voulait sortir du chemin de la kénose, de l'abaissement, de la petitesse de Jésus de Nazareth. Il voulait entraîner Jésus et les autres apôtres dans la révolte. Nous aussi, nous pouvons être tentés par cela. Un poète russe, Lermontov, a dit ceci. Et toi qui cherches la paix dans la révolte, tu n'y trouveras que le trouble, l'amertume. La puissance de Jésus subsiste pour nous. La puissance de Jésus est éternelle. Nous n'avons pas besoin d'armes pour être défendus. Nous n'avons pas besoin d'argent pour être défendus. Nous n'avons pas besoin de succès pour être défendus. Nous avons Christ. Christ est le Tout-Puissant. C'est notre gloire. C'est notre héritage. Nous avons le grand Sauveur dans notre cœur. Soyons fidèles. Imitons-le. Portons dans notre cœur un amour immense pour notre Maître, pour notre Berger. Je vous raconte maintenant une histoire. En Allemagne, dans la région de Karlsruhe, une très grosse riche ville industrielle, dans la campagne qui est auprès de la ville, un berger qui avait 111 moutons dans sa prairie vient au matin les voir et il n'y a plus un seul mouton, on lui avait volé. Il fait une déposition à la police et la police, bon, bien sûr, ne semble pas donner de signe. Et un jour, on lui téléphone, un mois plus tard, à la gare des marchandises, à la gare des... Rendez-vous à la gare, c'est un fait authentique que je vous raconte là. Rendez-vous à la gare, il y a 5000 moutons qui parlent pour la Turquie demain matin. Venez vite, soyez avec nous. Et donc, il s'installe là et les 5000 moutons passent devant. Les 5000 moutons passent devant le berger. Et le berger avait un cri spécial pour ses moutons. Donc, à répétition, et vous savez que dans tous les troupeaux, il y a toujours une brebis femelle qui est la meneuse, qui est le guide des autres. Tout d'un coup, là, la brebis qui arrive, et puis toutes les autres le rejoignent. Tous les moutons qui n'ont pas répondu à l'appel montent dans le train. 5000 moins 111. Quand les policiers se rendent compte que ces brebis, 111 brebis, sont réellement le troupeau de ce berger, parce qu'elles restent auprès de lui. Et le chien du berger était là, et les brebis reconnaissent aussi le chien. Elles ne sont pas montées dans le train. Elles ne sont pas parties en Turquie pour se faire couper la gorge, pour une fête religieuse. Les 111 brebis connaissaient la voix de leur berger. Connaissez-vous la voix de votre Seigneur Jésus dans votre cœur, dans votre âme? Allez-vous échapper au carnage? Les 4889 brebis montées dans le train sont l'image de l'humanité qui n'a pas de berger. Les 111 sont l'image de berger, Jésus. Soyez avec le berger. Écoutez sa voix tous les jours. Lisez l'évangile. Lorsque vous serez peut-être dans des situations difficiles, comme ces 111 brebis qui ont été volées, disparues, le jour que le berger arrive, il vous appelle et vous êtes là. L'enlèvement de l'Église, c'est cette image-là que je vous donne. Le berger connaît ses brebis. Les brebis connaissent sa voix. Et même mieux que cela, les brebis dans les mains, il y a un trou dans les pieds, dans le côté. Dans Zacharie, c'est annoncé. Alors, chers amis, soyez des brebis qui est dans la parole tous les jours, qui connaissez le maître, qui connaissez le berger, qui vous laissez conduire aux eaux paisibles. Vous savez très bien que dans le psaume 1, et dans le psaume 23, il est clair qu'il y a un courant d'eau qui est eau paisible. Et dans le psaume 23, le bon berger, bien sûr qui est Jésus, c'est l'annonce de Jésus, il dirige ses brebis vers la paix et le vers pâturage. Nous n'avons rien à craindre. Même si nous étions dans de sales situations comme les 111 brebis, même si nous faisions l'objet d'un kidnapping, nous soyons l'objet d'une prise d'otage. Nous, chrétiens, nous appartenons à Jésus. Jésus est notre berger qui viendra nous rechercher. Chers amis, soyez fidèles et sachez que l'amour de Jésus est immense pour vous. Nous ne sommes pas des girafes ni des éléphants. Parfois, nous ne sommes même pas des moutons, des brebis. Nous sommes encore des petits agneaux, souvent, bien faibles. Et pourtant, Jésus nous aime. Il nous porte dans ses bras. Si nous sommes blessés, il nous restaure. Consolez-vous, chers amis, le Seigneur, et ne faisons pas ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans l'histoire biblique. Je prends le psaume 106, « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. » Psaume 106, verset 7, « Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer. » Si la situation du monde devient de plus en plus difficile pour les chrétiens, ni de nouveau, et que vous doutez, vous ne faites plus attention à l'amour de Christ, à ses miracles, à ses signes, vous ne rappelez pas la multitude de ses grâces, vous ne rendez pas grâce, vous deviendrez rebelle. Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 24, psaume 106, verset 24, ils méprisèrent le pays des paroles de Dieu, de l'Éternel. Chers amis,